Bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur RDL en direct avec les stagiaires de l'été.
Nous sommes
Chacha,
Naïs,
Max
et Tilda.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de Marine Johannes, de Mika et Bassamawem, de Simone Biles et de Nuno Mendes.
Nous allons commencer par Marine. Alors, cette basketteuse née le 21 janvier 1995 à Lisieux a commencé le basket à l'âge de 8 ans au pont L'Évêque en Normandie.
À l'âge de 12 ans, elle changea de club et partit à l'USO Monteville.
Pour poursuivre sa carrière sportive, elle quitta sa famille à 15 ans et fut placée en famille d'accueil.
Elle remporta les championnats de France U17 en 2011-2012 et la Coupe de France U17 en 2012.
Elle enchaîne les clubs passant de Bourges à Lyon-Asvel dans le championnat français avant de rejoindre la Turquie pour une saison à CBK Mersin.
Selon vous, combien mesurait-elle ?
1m77 peut-être ?
1m70 ?
1m80 ?
C'est Chacha qui a raison, 1m78.
Yes. À l'heure d'aujourd'hui, elle a 31 ans et elle joue pour le Liberty de New York en NBA aux États-Unis.
Je pense qu'on en a fini avec elle. Passons maintenant à Mika et à Bassamawem.
Née le 3 août 1990 et le 9 novembre 1984 à Nîmes, ses deux frères d'origine guyanaise ont découvert l'escalade à 12 ans après la gymnastique.
Ils ont commencé à grimper ensemble au club Alpi 360 à Village Neuf dans le Haut-Rhin à l'âge de 12 et 15 ans.
La discipline principale de Mika est le bloc, tandis que celle de Bassa est la vitesse.
En 2016, les deux frères participent à la première saison de Ninja Warrior.
Selon vous, combienième a fini Mickaël ?
Peut-être 15e ?
20e ? 16e ?
Tu dis combien toi ?
16e ?
Eh ouais, c'est ça. Enfin, c'est plutôt 17e, mais c'est toi qui te rapproches le plus.
Eh oui, tandis que son frère Bassa a frôlé les 100 000 euros en finissant 2e.
En 2019, Mika est le premier grimpeur français à se qualifier pour les JO.
Tandis que son frère intègre l'équipe de France d'escalade de vitesse de 2011 à 2024.
On a fini avec les frères Mawem autour de Simone Biles.
Cette gymnaste de 29 ans, née le 14 mars 1997 à Columbus, dans l'Ohio, aux États-Unis.
Elle a découvert la gym à l'âge de 6 ans et depuis, c'est devenu sa vraie passion.
Son mari, Jonathan Owens, est un joueur professionnel de football américain qui mesure 1m95, tandis que Simone, elle, ne mesure que 1m45.
Selon vous, combien de médailles a-t-elle gagné dans toute sa carrière ?
30 ?
Je dirais 35.
Ouais, 34.
C'est Naïs qui se rapproche le plus, c'était 37, dont 7 médailles d'or aux Jeux Olympiques.
Maintenant, parlons un peu de sa famille. Simone a 3 frères, Ronald, Adam, Tevin, et 2 sœurs, Adria et Ashley.
Les grands-parents de Simone, Nelly et Ronald, l'ont adoptée à l'âge de 6 ans.
L'athlète Simone dit avoir été blessée suite à un post montrant un bracelet d'hôpital.
Elle refuse de donner plus d'informations, mais elle dit avoir frôlé la mort.
Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné. Oui, tout donné, toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner,
Parfait, maintenant passons à Nuno Mendes. Ce joueur de foot portugais est l'un des meilleurs latéraux gauches au monde.
Il a 24 ans et fait 1m80. Il est né le 19 juin 2002 à Sintra, au Portugal.
Il a commencé à jouer au foot dans la rue vers 6-7 ans.
À 8 ans, il a rejoint le club amateur du quartier d'Espertar. À 9 ans, il intègre le centre de formation du Sporting Portugal.
Son vrai nom est Nuno Alexandre Tavares Mendes.
Nuno a un frère nommé Bruno Miguel Tavares Mendes, qui joue également au foot.
Son père est décédé très tôt, et c'est sa mère qui l'a poussé à devenir footballeur.
Selon vous, combien de matchs a joué Nuno?
218.
Je dirais 220.
Ouais, 220.
Eh bah, ben, c'est Naïs et Chacha qui ont raison, car c'était 220.
Le premier club de Nuno a d'abord été le Sporting CP au Portugal.
Il joue actuellement au PSG. Il joue aussi dans l'équipe nationale du Portugal.
Ses points forts sont sa vitesse et son explosivité, et aussi une technique au-dessus de la moyenne.
Sa vitesse maximale est de 36 km par heure. Il a aussi une grosse puissance physique.
Ses points faibles sont sa concentration et son jeu de tête.
Le salaire de Nuno est estimé à 800 000 euros par mois. Il gagne alors environ 9,6 millions par an.
C'est un monstre, personne le dépasse, personne ne le dompte. Puissant, rapide, impossible à bouger. Sur son godet, ses zones interdites fermées. Nuno Mendes, machine de guerre, défense en fer, attaque éclair. Il fait tout, il fait mal, il impressionne. Sur le terrain, c'est lui qui domine.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés et ça continue. Bisous.
À demain.
You're strong. Dai, dai, Ico, darling, darling, let's go. Dai, dai, Ico, darling, darling, let's go.
Bonjour et bienvenue sur RDL 103.5 et aujourd'hui on va vous parler des pires histoires, excuses et réponses que des élèves de collège et lycée ont pu raconter et écrire à leurs professeurs.
Les animaux de compagnie sont mis à rude épreuve car c'est eux qu'on traite de coupables pour les retards et absences de devoirs. Par exemple, mon chien a mangé mon devoir et après il a vomi sur ma clé USB.
Ou encore, mon chat s'est endormi sur mes genoux, je ne pouvais pas bouger pour venir à l'école sans le réveiller. Un directeur d'école à Lyon a posté les meilleurs mots écrits des parents aux enseignants pendant un an. Voici une petite compilation de nos préférés. William n'est pas venu à l'école hier parce qu'il a fait la grève. Chacun son tour.
Vous voulez que j'achète la photo de classe de ma fille ? Non mais vous avez vu la tête des autres ? Alors c'est non merci, cordialement. Il y a aussi ceux qui n'y vont pas par quatre chemins, comme « Monsieur, je suis au courant de l'absence de mon enfant, mais je ne trouve pas d'excuses à vous fournir. Que voulez-vous que j'y fasse ? Cordiale salutation. »
Il y a aussi ceux qui ont le sens de la priorité. « Madame, le soir je rentre du travail et je fais la cuisine et la vaisselle et après c'est le film. Quand est-ce que vous voulez que je fasse les devoirs à Bruno ? » Salutation distinguée.
Mais à l'école, il y a les excuses fournies par les parents et les élèves et des punitions données par les profs. Il y a bien sûr le classique du « j'ai osé boire en classe » ou encore « j'ai osé bailler, dont je me suis pris une heure de colle. »
Il y a aussi ceux qui ne savent plus quoi inventer. Une heure de colle pour s'être coincé le petit doigt dans la taille crayon par ennui. Et quand l'école se transforme en business, le risque est de se faire coller pour motif de trafic de bonbons. Ou encore quand un élève a tenté de faire croire qu'un fantôme avait mangé sa feuille de copie. Bref, l'imagination ne manque pas, voilà quelque chose que l'IA ne pourrait pas inventer.
Il y a aussi les dingueries que font les élèves. Par exemple, entre celui qui a réussi à lancer une boule de feu en plein cours, ou celui qui découpe un dictionnaire pour faire comme dans les films, quand il cache des armes, sauf que là c'était pour cacher de la nourriture, ou encore faire entrer des poules dans le bâtiment, mettre du camembert dans les néons, ça se comprend que les profs perdent leurs cheveux.
Et voici nos deux préférés. Insolence de Maxime envers le surveillant durant le devoir surveillé. Je cite. « Vous pouvez respirer moins fort, j'ai l'impression d'être au salon de l'agriculture. »
Il y a aussi « Rentre en cours avec son tacos et distribue des frites à la classe, et quand je la vire, sa simple excuse est « Je fais partie du resto du cœur. »
Lisa et Élise, avez-vous une anecdote personnelle à nous raconter ?
Oui, bien sûr. Avec Lisa, on va vous raconter une anecdote qui s'est passée dans notre collège.
Et oui, un jour, dans notre collège, entre la pause de midi, une personne de notre classe aperçut le contrôle de maths par la fenêtre de la salle. Elle appela toute la classe.
Quand les élèves sont venus, un élève a ouvert la fenêtre, puis pris le contrôle en photo et demanda à notre très cher ami ChatGPT de donner les réponses. À ce moment-là, une personne de notre classe est allée le dire à notre prof principal qui nous a fait la morale.
Comment pensez-vous que ça s'est fini ?
Très mal.
Ouais, très 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 mal.
Des fois, le désespoir des profs se comprend. Voilà une petite compilation.
Dans quelle bataille Napoléon est-il mort ?
Bah, sa dernière.
Où a-t-on signé la déclaration de l'indépendance ?
Bah, en bas de la page.
Et dans quel état coule la rivière de Ravi ?
Bah, c'est de l'eau, donc c'est liquide.
Quelle est la raison principale du divorce ?
Le mariage. Un jour, ma professeure de SVT a écrit dans un contrôle.
Cite une cause de la déforestation.
Ce contrôle, parce que c'est imprimé sur du papier.
Bob a 36 bonbons. Il en mange 29. Qu'est-ce qu'il lui reste après ?
7 bonbons pour le goûter ?
Et bien sûr que non, il a le diabète !
Et qu'est-ce qui s'est terminé en 1896 ?
Bah, 1895.
Océane regarde dans son microscope, mais ne voit rien. Cite une réponse possible.
Elle est aveugle ?
Quand Marie-Antoinette est-elle née ?
Je sais pas, j'étais pas née.
Le 2 novembre, non ?
Oui, le 2 novembre 1755.
Et la fameuse question, pourquoi est-ce qu'on va à l'école ?
Ça je sais, pour pouvoir râler.
Pour ne pas rester à la maison.
Pour pouvoir devenir millionnaire.
Et pourquoi les parents travaillent ?
Pour acheter des choses dont on n'a pas besoin.
Et aussi, pourquoi le soleil se lève le matin ?
Pour éclairer nos sombres vies.
Mais non, c'est parce qu'il a entendu mon réveil sonner.
Oui, oui, ça doit être ça. Et à votre avis, pourquoi est-ce que les moustiques piquent-ils ?
Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter de la nourriture, en plus avec l'inflation.
Pourquoi les téléphones tombent-ils toujours?
Parce qu'ils veulent faire leur sport.
Pour faire un régime.
Et pourquoi les profs donnent-ils des devoirs le week-end?
Parce qu'ils n'ont pas de vie, pas de famille et qu'ils ne savent pas quoi faire.
Et surtout, pourquoi est-ce que les vacances passent-elles vite?
Parce que le temps aussi veut se reposer. Et vous, pensez-vous déjà avoir fait pire? En espérant que vous avez rigolé avec nous, c'était...
Mélina,
Elena,
Élise,
Elisa. On va vous laisser avec la musique pour le Hopé l'école de Aldebert. Mais attention, il reste un groupe qui va parler des catastrophes naturelles.
Bye bye!
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à faire le tour de la maison en pyjama pour choper froid, manger des tartines au goudron pour avoir mal à l'estomac, faire mon service militaire, traverser la Manche au bouée, chatouiller une panthère, faire pipi sur un policier.
Oh, louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à
devenir magicien pour me faire disparaître, prier pour que les martiens m'enlèvent sur leur planète,
prendre en otage ma petite sœur,
terminer mes choux de Bruxelles,
manger des crayons de couleur
pour vomir un arc-en-ciel.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école,
moi j'irai jusqu'à
sans armes contre un gladiateur,
je serai prête à me battre,
imiter les cascadeurs,
respirer finir dans le plâtre,
avaler 200 limaces pour effrayer les instits, faire sauter la salle de classe à la dynamite.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à. Pour louper l'école, je le ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à.
Pour moi c'est pire que le bagne, et lorsqu'il eut inventé ce sacré Charlemagne, aurait dû rester couché.
Comptez pas sur moi les gars, c'est sympa mais c'est sans moi. Oui j'ai eu cette idée folle un jour d'éviter les gars.
Dans les toilettes,
provoquer un ours en duel,
avaler une clarinette,
ou repeindre la tour Eiffel,
boire du coca périmé
pour attraper des boutons,
manger du beurre toute la journée,
finir aussi gros qu'un camion,
chanter du Laurie en latin,
faire une sieste de 6 mois,
manger la pâtée du chien,
apprendre l'annuaire en chinois,
ne respirer qu'une fois sur deux,
me laver à l'eau de Javel,
ne plus jamais cligner des yeux,
torturer le Père Noël.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à.
Là. Et vous êtes toujours sur RDL 103.5, nous sommes le troisième et dernier groupe pour ce jour-là. Et je suis Lucia, je suis en compagnie de
Léna,
Clary, Émilie
et Fabien.
Comme tous les jours, à la régie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu moins drôle que le groupe d'avant. On va simplement parler des catastrophes naturelles qui sont arrivées ces 60 dernières années, avec une exception, parce qu'évidemment, on est en français. Léna, tu nous parles de cette exception?
Oui, c'est la chute de météorite de Tunguska. Certains témoignent avoir vu un bolide dans le ciel le 30 juin 1908 vers 7h14 dans l'Empire russe en Sibérie. Cela aurait été un objet brillant en forme de balai ou une lueur intense suivie d'un panache cylindrique dans le ciel. C'était bel et bien une chute de météorites, mais aucun cratère ni fragment fut trouvé. Des micro-particules en silicate, c'est du sel, et des magnétites, c'est un minéral, ont été observées jusqu'à 400 km de l'épicentre. Une dizaine de kilomètres d'arbres furent abattus par le souffle ayant suivi l'onde de choc. De l'iridium, c'est un élément chimique, et du carbone 14 ont été trouvés en assez grande quantité pour affirmer une origine extraterrestre qui est contestée. La météorite causa 3 nucléaires en Europe du Nord. Certaines personnes pensent que la météorite était un trou noir primordial, une comète d'antimatière ou de la matière noire. Et je passe la parole à Émilie.
Moi, je vais vous parler de la plus grosse et la plus meurtrière avalanche qui s'est produite sur le Nevado Huascarán au Pérou le 31 mai 1970. Déclenchée par un séisme, une masse colossale de 50 à 100 millions de mètres cubes de roches et de glace a enseveli la ville de Yungay, causant 20 000 à 25 000 morts. C'est à toi, Lulu.
Merci. Et moi, je vais parler du cyclone Bala. Donc, c'est le cyclone tropical le plus meurtrier de l'histoire, qui s'est passé au Bangladesh, qui était à l'époque le Pakistan oriental. Donc, le cyclone Bala s'est déroulé du 12 au 13 novembre 1970. Et puisqu'il est le plus meurtrier, l'estimation de bilan humain varie entre 300 000 et 500 000 morts, ce qui est énorme. Et c'est une des pires catastrophes naturelles des temps modernes, avec des vents de plus de 200 km/h qui ont créé une vague géante de 5 à 6 mètres de haut qui a submergé des îles entières. L'île de Bala a été la plus touchée, car jusqu'à 46% de sa population a été perdue en seulement 2 jours. Un truc à dire, Fabien ?
Ouais, moi je vais vous parler du séisme de Tangshan. Donc le 28 juillet 1976, un terrible séisme frappe la ville de Tangshan, dans le nord de la Chine. Il se produit vers 3h42 du matin, alors que la majorité des habitants dorment. Le tremblement de terre atteint une magnitude d'environ 7,6 et provoque des destructions énormes. Les bâtiments s'effondrent, les routes sont coupées et de nombreuses infrastructures sont gravement endommagées. La ville est presque entièrement détruite. Le bilan humain est particulièrement lourd. Les autorités chinoises ont officiellement annoncé environ 242 000 morts, mais certaines estimations parlent de beaucoup plus de victimes. Les secours rencontrent également de grandes difficultés pour atteindre les habitants. À cause des bâtiments détruits, les routes sont bloquées. Le séisme de Tangshan reste aujourd'hui l'un des tremblements de terre les plus meurtriers du XXe siècle. Et du coup, je te repasse la parole, Lucia.
Merci. Et en deuxième, moi je vais parler du typhon Tip qui s'est passé en octobre 1979 dans le Pacifique Nord-Est. C'est le cyclone tropical le plus large et le plus intense jamais enregistré, mais ce n'est pas son seul record. Il avait une pression atmosphérique qui était très minimale, car elle est descendue à 870 hauteurs de pression atmosphérique le 12 octobre 1979. Donc la pression au niveau de la mer était la plus basse mesurée sur Terre. Le diamètre exceptionnel, qui était à son apogée, le typhon, était presque aussi grand que la moitié des États-Unis, ce qui est énorme pour ceux qui voient à peu près à quoi ça ressemble. Et on a pu aussi mesurer des vents extrêmes, car la vitesse maximale estimée était à 300 km/h. Heureusement, seulement 99 personnes sont mortes, principalement au Japon, ce qui est clairement moins que le cyclone dont j'ai parlé avant. Et on peut dire que le typhon Tip a commencé en Micronésie, puis s'est baladé sur l'île de Guam et a terminé sa course sur l'île de Honshu, au Japon. Et on a pu détecter des pluies torrentielles, des inondations massives. Quelqu'un a quelque chose à ajouter pour la suite ?
C'est moi. Un séisme a eu lieu dans l'océan Indien au large de l'île indonésienne de Sumatra le 26 décembre 2004. C'était un séisme de magnitude 9,3, soit le deuxième plus gros séisme enregistré. L'épicentre se situait à la frontière des plaques tectoniques eurasiennes et indo-australiennes. Le tsunami engendré par le séisme a atteint 35 mètres partant de l'épicentre à 800 km/h. Il touche au total 14 pays, dont l'Indonésie, le Sri Lanka, l'Inde et la Thaïlande, ces 4 pays étant les plus touchés. En tout, le bilan humain s'élève à 228 000 morts. Et c'est à Léna qui va nous parler d'un troisième cyclone.
Alors, c'est le cyclone de Nargis. Il a eu lieu le 27 avril jusqu'au 3 mai 2008. Il s'est formé dans le centre du golfe du Bengale, dans l'océan Indien. Il se produit en Birmanie, au Sri Lanka et en Inde. Le bilan humain s'élève approximativement à 84 000 morts et environ 53 000 disparus. Nargis vient du perse Narcisse. Pour l'armée, ce cyclone ne s'appelle pas Nargis, mais 01B. Et je laisse la parole à Fabien.
Oui, du coup, je vais continuer sur un autre séisme, le séisme du Sichuan. Donc, le 12 mai 2008, un puissant séisme frappe la province de Sichuan dans le sud-ouest de la Chine. Il atteint une magnitude d'environ 7,9 et provoque d'importantes destructions. Des milliers de bâtiments s'effondrent, notamment des maisons, des écoles, des routes, des glissements de terrain et des glissements de terrain rendent les secours très difficiles d'accès. Le bilan est extrêmement lourd. Environ 87 000 personnes sont mortes ou portées disparues et plus de 370 000 personnes sont blessées. Des millions d'habitants se retrouvent également sans logement après la catastrophe. D'importants travaux de reconstruction sont lancés pour reconstruire les villes et les infrastructures détruites. Et je passe la parole à Clary.
Oui, du coup, je vais vous parler du séisme de Haïti qui a eu lieu le 12 janvier 2010, plus exactement à 16h53. Il a touché plusieurs pays comme Haïti, la République dominicaine ou encore Cuba. Ce séisme a provoqué 280 000 morts et plus de 300 000 blessés, ce qui est énorme. Il y a une magnitude de 7 à 7,3. L'épicentre se trouvait à 25,3 km de profondeur par rapport au sol, ou comme Lucia le dit, par rapport au parterre.
C'est de la diffamation, j'ai jamais dit ça, c'est de la diffamation.
On a tous dit ça.
C'est faux, j'ai jamais dit ça. Non, c'était pour la vanne, c'est faux, j'ai jamais pensé ça.
À voir.
On en parle après.
Oui. Et je vais encore vous parler de l'éruption volcanique de La Palma, qui a eu lieu du 19 septembre au 13 décembre 2021, dans la commune de El Paso, en Espagne. La reconstruction a engendré un coût de 400 millions d'euros. Le lieu ayant été évacué, le bilan ne s'élève qu'à un mort et aucun blessé n'a été signalé. Cette éruption était mixte, c'est-à-dire explosif et effusif à la fois.
Et merci de nous avoir écoutés. On est désolés parce que le sujet était clairement moins fun que le groupe d'avant. Ouais. Mais c'est quelque chose d'important dont on doit parler, car maintenant, avec tous les problèmes climatiques, il va y avoir beaucoup plus de grandes catastrophes. Et malheureusement, c'est à ça qu'on doit se préparer. Donc si ça peut vous encourager à moins polluer, voilà. On vous dit au revoir et je rappelle que je n'ai pas dit le parterre.
Oula.
C'est faux. Non, c'est la diffamation. Mais voilà, Clary, tu n'as pas à écrire ça, c'est la diffamation, c'est faux, je n'ai pas écrit ça.
Mais et bon, on vous dit. Allez, on conclut.
Chut. Et on vous dit au revoir, que j'écris très bien en français. On vous dit au revoir à demain. On vous laisse avec la musique Shrek qui va vous être de beaucoup meilleure.
La musique quand il sort des toilettes.
Fallait préciser ça.
Bah oui, parce qu'il y a plusieurs musiques.
Oui, mais vas-y.
Donc voilà, on se quitte sur Smash Mouth de All Star. Au revoir tout le monde.
J'ai dit très bien. C'est la diffamation en direct, là, pour le coup, la Clary.
To the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
And all that glitters is gold.
Only shooting stars break the mold. It's a cool place and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
All that glitters is gold.
Only shooting stars break the mold.
Go for the moon. Go, 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 for the moon. Go, 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 for the moon. Go, 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 go,
sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back?